de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Est-ce qu'on vient le découvrir?
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort, Moelle-Neuil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je n'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème!
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial!
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission de 30 minutes qui parle évidemment de cinéma. Nous allons parler de films qui sont en salle depuis le mercredi 2 octobre et nous allons pouvoir jouer un blind test. Aujourd'hui, c'est le grand retour du blind test avec la filmographie de Michel Gondry parce que Sophia, eh bien, tu vas nous parler de son dernier long métrage.
Oui, je vais vous parler de Maya, donne-moi un titre, donc un dernier long métrage d'animation.
Et oui, ça c'est une nouveauté pour le réalisateur français. Toi Manu, ce sont deux films.
Oui, le nouveau film de François Ozon, Quand vient l'automne, et puis un thriller technologique qui s'appelle Drone.
Et puis Guillaume nous parlera de I Saw the TV Glow, et puis moi je vous parlerai de All We Imagine as Light, film indien qui a remporté le grand prix du dernier festival de Cannes. Mais nous commençons avec le dernier François Ozon à la Toussaint. Valérie vient rendre visite à sa mère et déposer son fils Lucas pour la semaine de vacances, mais rien ne se passe comme prévu. C'est Quand vient l'automne.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Les premières années avec ma fille ont été merveilleuses. On était en communion totale. C'est après que ça s'est dégradé.
Alors que fait-on quand vient l'automne? Alors quand on habite un petit village de Bourgogne, eh ben, on peut cueillir des champignons.
Mais oui.
Oui. C'est ce que propose Michel, une grand-mère bien sous tout rapport, quand elle reçoit à la Toussaint son petit-fils Lucas et sa fille Valérie, qui ne semblent pas très heureuses d'être présentes. Alors Michel vit aussi à côté de sa meilleure amie, Marie-Claude, avec qui elle partage un passé trouble. De retour de leur promenade, Michel cuisine les quelques champignons comestibles qu'elle pense avoir trouvés, mais rien ne se passe comme prévu.
Ce serait bien si tu me faisais une donation de ton vivant, pour éviter de payer trop d'impôts quand tu seras morte.
Je t'ai déjà laissé mon appartement de Paris.
Mais alors?
C'est horrible à dire, mais avec nos gosses, on a tout raté.
Ah. À la fin des bêtises.
Philippe!
Qu'est-ce qui se passe là?
La fille nous a appelé en urgence, elle se sentait pas bien. Ça ressemble à quelque chose de toxique.
Les champignons.
Alors Quand vient l'automne est un film bizarre, insaisissable, dont les enjeux demeurent parfois cryptiques, un flou moral difficile à analyser. D'autant que cette histoire, comme dans un film, je dirais assez classique, de Jean Becker, prend l'allure au départ d'une comédie dramatique familiale un peu vieillotte, sous-tendue par des secrets de polichinelle. Alors au lieu d'enchaîner les révélations mécaniques, François Ozon, cinéaste inégal, dérive vers une sorte de fable ironique sur les liens entre la vie et la mort, l'idée que la mort des uns est peut-être être une nécessité pour l'accomplissement du bonheur des autres. Alors il dresse le portrait touchant mais ambigu, non dénué d'un humour noir velouté à l'image des champignons vénéneux qui ont l'air si gouléants, d'une vieille dame serviable, d'une gentillesse absolue mais qui, consciemment ou non, pourrait faire du mal aux autres. Alors quand le drame surgit, elle n'apparaît pas plus affectée que cela, d'autant qu'elle gagne sur tous les tableaux. Alors l'autre personnage en miroir de Michel demeure le fils de Marie-Claude, donc son ami. Hein. Il sort de prison, n'aspire qu'à faire le bien, se rend définitivement avec un rêve en tête, hein, monter un bar tabac qu'il va réussir à concrétiser grâce au soutien de Michel. Alors entre-temps, bah, il commet aussi l'irréparable sans que le spectateur sache le fin mot de l'histoire. Est-il coupable ou non? Peu importe au fond, car le drame qui entoure les protagonistes se révèle bénéfique pour tous. Alors ce cynisme un peu insidieux rappelle aussi le cinéma de Louise Buñuel.
Rentre avec Lucas.
Mais ses vacances avec moi.
Après ce qui s'est passé, je peux plus te faire confiance.
C'était un accident.
Tu es dangereux. Je ne vais pas te laisser mon fils.
La réussite de Quand vient l'automne, hein, tient non seulement au brouillage des genres, hein, on ne sait pas si c'est un drame, une comédie, un thriller, mais aussi à sa mise en scène précise qui manie l'art de l'ellipse. L'académisme de la forme n'est qu'une illusion savamment orchestrée par François Ozon qui parvient à injecter de l'étrangeté à l'intérieur de la banalité des situations. Alors derrière le vernis fadasse d'une photographie un peu terne et de chant contre chant traditionnel, il crée du mystère, diffuse une atmosphère trouble grâce à la science de son montage, à ses trous narratifs qui laissent au spectateur un imaginaire à remplir. La séquence où le fils de Marie-Claude, hein, magnifiquement joué d'ailleurs par Pierre Lottin, qui a fait du chemin après les Tuches, hein, puisqu'il était dans les quatre Tuches, alors rend visite à Valérie, est un modèle de découpage filmique, de tension sourde. La confrontation violente n'aura pas lieu à l'écran. Tout est en pensée en hors-champ. Hein. Lorsque Valérie va sur sa terrasse chercher une clope, un frisson nous parcourt, car derrière le calme de la scène affleure une sensation d'épouvante, saisie par un plan fugace où Valérie monte sur une échelle.
Ne plus voir le cas, ça me ferait tellement de mal.
Ta mère, elle est triste et c'est dégueulasse ce que tu fais avec son petit-fils.
De quoi tu te mêles? Parce qu'on connaît son putain de passé. Et ta mère aussi.
Je ne suis pas certaine qu'il s'agisse d'un accident.
T'es au courant de quelque chose?
En fait, j'ai plutôt peur qu'il s'agisse d'un meurtre.
Quand vient l'automne est une farce féroce et amorale, alors non dénuée d'émotion, hein, très attachée à ses personnages, à qui Ozon aime donner une deuxième chance. Alors d'autant que le film est remarquable interprété par la très rare Hélène Vincent, et puis aussi Josiane Balasko,
bah oui.
Qui a un rôle intéressant.
Nous parlions de Quand vient l'automne, portrait de deux femmes qui vont goûter à la promesse d'une liberté nouvelle. Nous parlons maintenant de All We Imagine as Light.
Bah oui, c'est le film, et le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
C'est parfois curieux de se dire que pour parler d'un film, il faut en venir à sa toute fin. Le tout dernier plan de All We Imagine as Light, Grand Prix au dernier festival de Cannes, se déroule sur une plage. C'est la nuit, on y voit une paillote éclairée de lumière multicolore. Une image raccord avec le début du film qui nous plonge à Bombay ou Mumbai, comme c'est cité dans le film. Là encore, dans la nuit, dans l'effervescence d'une ville où l'activité ne faiblit jamais. Des voix racontent la ville, ce qu'on vient y faire, ce qu'elle promet et ce qu'elle enlève. Alors ces deux séquences s'opposent. Entre ces deux moments, le récit de All We Imagine as Light, celui d'au moins trois femmes, mais allons plutôt deux hein, pour l'instant, qui travaillent à l'hôpital. L'une, Prabha, est infirmière. Elle vit en colocation avec sa collègue Anou, qui se tient à un guichet. La première a son mari qu'elle n'a jamais choisi, qui est parti vivre en Allemagne et qu'elle n'a pas revu depuis des années. Ce qui la contraint à ne pas rencontrer d'autres hommes. Le médecin déraciné comme elle a beau l'approcher, eh bien, elle n'a pas l'intention de lui laisser une chance. La seconde femme vit une relation avec un jeune homme musulman qu'elle ne pourra jamais présenter à ses parents. Et la troisième femme, puisqu'on va quand même aller l'inclure, est veuve, c'est une cuisinière dans ce même hôpital et son problème à elle, c'est qu'elle réside dans un immeuble promis à la destruction. Petit extrait de la bande-annonce qui nous permet d'écouter la belle sonorité de l'Indy. Pour capter l'essence du film, peut-être faut-il revenir à son beau titre, tout ce que l'on imagine comme étant de la lumière. Et l'on revient à cette image de fin, hein, avec les éclairages colorés et celle de la ville durant les deux tiers du récit, parce que ce récit se déroule en ville, principalement. Dans cette ville, on voit comment ces trois femmes circulent entre leur journée de travail, la soirée au cinéma que l'on refuse, l'entrevue qu'on accepte et le retour au domicile. Ce qui apparaît également en creux, c'est le déterminisme touchant ces femmes, hein, déjà parce que ce sont des femmes. Ainsi, à la plus jeune à qui on suppose une relation, on dit vite que c'est une traînée. Et puis, un déterminisme social et économique également. Hein. Deux des femmes sont en colocation quand la troisième va voir son immeuble rasé. Il y a le poids des traditions, le regard de l'autre, les mariages arrangés, le poids de la famille, le statut de l'immigré. Tous ces thèmes apparaissent dans des séquences qui s'enchaînent facilement dans une dimension naturaliste avec quelques éclats poétiques. Alors, passer le temps dans la ville où rien ne se résout, les trois femmes partent dans le village d'enfance de la plus âgée. Et puis, eh bien, c'est là-bas. La lumière n'est plus la même qu'en ville, et ces femmes parviennent à se tirer de leur situation empêchée, à dénouer les problèmes, même par le biais du fantasme. Alors qu'importe, hein, les personnages se révèlent doucement à nous et s'émancipent loin de la ville. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas très en phase avec le palmarès du Festival de Cannes 2024, hein, que ce film indien ait obtenu le Grand Prix a tout de même de quoi surprendre. Alors bien sûr, c'est le premier film indien en compétition depuis 30 ans, hein, c'est pas rien. Mais All We Imagine as Light a de grandes qualités, ça je le conçois, mais il reste selon moi dans sa fabrication, dans son expression volontairement nébuleuse, un film trop âpre malgré ses couleurs saturées et sa sensualité. Et le jour de la projection à Cannes, eh bien, les deux tiers de mon rang ont trouvé mieux à faire que de regarder la fin de ce portrait sensible. possible. Alors évidemment, ce n'est pas un critère, mais il n'empêche que ça exprime la mise à distance de ce type de cinéma, me semble-t-il. Mais quand même, bah, je vous recommande d'aller voir ce film, parce que déjà, on en voit peu des films indiens, et qu'il a quand même une certaine poésie. All We Imagine As Light est en salle depuis le 2 octobre. C'est le gros sujet de cette émission, puisque nous allons pouvoir jouer un blind test autour de la filmographie de Michel Gondry. Pourquoi ? Parce que c'est un touche-à-tout, et il s'est lancé dans le film d'animation, et c'est très réussi. Nous parlons de Maya, donne-moi un titre.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Ça, c'est mon papa. Et Maya, c'est ma fille. Quand j'étais à l'autre bout de la planète, je lui ai demandé de me donner des titres d'histoire.
Tiens, donne-moi le titre pour ton prochain dessin animé.
Et j'en ai fait des dessins animés, dont voici la bande-annonce.
Maya, donne-moi un titre est un recueil de courts-métrages. On connaît la propension de Michel Gondry à créer des œuvres morcelaires faites de narrations bricolées, donnant lieu à des patchworks d'univers poétiques. Gondry, c'est l'art de relier des fragments de quotidien avec un fil humoristique et fantasque. Pour cet inventeur de génie polyvalent, comme tu le disais bien Vincent, musicien, auteur de BD, réalisateur de clips et de films, c'est ici avec du papier de toutes les couleurs, des feutres charpies, des ciseaux, une bonne dose de colle et de patience qu'il donne vie à Maya, une alter ego bidimensionnel de sa propre fille. Le film est narré par Pierre Ninet, avec qui Gondry avait déjà collaboré dans le Livre des Solutions en 2023. Il incarne ici l'unique voix qui nous guide à travers les histoires, personnifiant à lui seul tous les protagonistes.
Mais c'est quoi une bande-annonce ?
C'est quand on raconte le film en une minute.
En une minute ? On va rien comprendre.
Mais non, on va pas l'accélérer. On va le découper avec des ciseaux et le recoller avec du scotch. Ça s'appelle du montage.
Et ça fait même pas mal. On est dans un film de papa. Tout est en papier. Regarde.
Maya, donne-moi un titre s'ouvre de manière métacinématographique, hein, tout comme sa bande-annonce, en exposant ouvertement son dispositif. Gondry nous montre sa technique, son matériel, ses personnages, Maya, papa, maman, et une petite poignée d'autres plus marginaux, et tout le processus de l'animation pas à pas, également connu sous le nom de stop motion. Gondry a souvent utilisé ce procédé, hein, comme dans des clips, comme notamment I Fell in Love with a Girl des White Stripes en 2002. Reconnu pour son style visuel bidouillé dans des clips internationaux cultes tels que Human Behavior de Björk ou encore l'incontournable Around the World de Daft Punk, c'est vraiment le clip de Mathieu Chédid, Grand Petit Con de 2009, auquel Maya, donne-moi un titre, fait ostensiblement penser. Sous nos latitudes franco-françaises, c'est bien ce clip de M qui est le plus emblématique pour évoquer l'esprit Gondry. Cette simplicité apparente mais extrêmement travaillée qui confère au film une riche authenticité tout au long des aventures de Maya. Gondry préfère le bricolage, l'imperfection et un côté brut et expérimental, loin des productions lisses de Pixar ou Disney. Pour un exemple de cet esprit, hein, il y a dans le film une scène d'une histoire sur un tremblement de terre où la mère de Maya s'inquiète que sa fille se blesse. Maya, imperturbable, rétorque « Mais non, maman, regarde, on est en papier. » Puis elle se déchire le corps en deux avant de se reconstituer, montrant que même en plein chaos, tout reste un jeu. Vincent, toi qui as vu le film avec ta fille Ezra, tu confirmeras peut-être que ce côté un peu « trash » entre guillemets crée une étrangeté qui par moments peut en faire un film davantage destiné aux adultes qu'aux plus jeunes, avec cette double lecture qui crée un imaginaire interpellant autant les enfants que leurs parents, bien propre à Gondry qui n'hésite jamais à explorer les frontières entre le conte et la réflexion plus mature.
Il y aura de l'action.
Oh les pattes !
Il y aura des courses-poursuites, des tremblements de terre, des sirènes, du ketchup et de l'émotion.
On n'a pas dit le titre ?
Ah oui, non, zut, t'as raison. Maya, donne-moi un titre. C'est ça, le titre.
Un point majeur rend ce film particulièrement touchant, la raison même de la création de ces histoires. Vivant dans deux pays différents, Gondry a trouvé ce moyen créatif de rester connecté avec sa fille. Ce lien personnel se ressent tout au long du film, même lorsque Maya commence à se désintéresser un peu des histoires de papa. Gondry se met alors en scène et fait preuve d'une charmante autodérision tout en soulignant au passage la bienveillance de sa fille. Le film compile enfin des séquences vidéo dans une pièce où Maya, la Maya réelle et physique, est filmée et où elle commande son histoire en donnant son titre, une sorte de prompt à son père. On la voit ensuite y accrocher au mur les tableaux, réminiscence des souvenirs des aventures vécues. Ces moments viennent ancrer chaque récit dans une réalité tangible qui donne au film une couche supplémentaire de sincérité et de poésie. Parmi la collection d'aventures initiatiques, Pampa la Frita se distingue par son côté absurde et hilarant. Après avoir provoqué donc une marée de ketchup, Maya doit sauver le monde de cette catastrophe en faisant appel au roi des Belges, pays de la frite évidemment, et au chef d'entreprise Pampa la Frita, qui accepte alors de produire des milliards de frites pour éponger la marée. Cette aventure résume bien l'inventivité sans borne de Gondry, toujours prêt à transformer des éléments banals en moments épiques à partir d'une simple suggestion, en l'occurrence un titre. On l'aura compris, l'imaginaire est un thème central chez Gondry. Maya évoque La science des rêves, son film de 2006, où la frontière entre rêve et réalité est constamment floue. Ici, comme dans un rêve lucide, Gondry s'amuse avec cette liberté totale, la capacité de transformer le récit à tout moment, de revenir en arrière ou de le déchirer puis de le reconstituer. Maya, donne-moi un titre, est une expérimentation joyeuse, un hommage au pouvoir de l'imaginaire, à la licence de rêver, au lien entre un père et sa fille et à la beauté du bricolage artisanal. Michel Gondry, fidèle à lui-même, nous livre un film où la fantaisie naît du quotidien et où même les imperfections et la rugosité font partie intégrante de la magie.
Ce film est à voir à partir de 3 ans et c'est vrai que c'est facilement visible à partir de 3 ans. Il nous donne l'occasion de jouer à un blind test autour de la filmographie de Michel Gondry. Donc ce sont 5 extraits, il faut deviner le titre. Premier extrait.
On va commencer avec votre souvenir le plus récent. À partir de là, on remontera plus ou moins dans le temps. Il faut savoir qu'à chacun de nos souvenirs correspond à un noyau émotionnel. Et quand on détruit ce noyau, cela entraîne la détérioration du souvenir. Quand vous vous réveillerez demain matin, tous les souvenirs qu'on aura pris pour cible s'étioleront puis disparaîtront. C'est un peu comme un rêve éveillé.
Est-ce que mon cerveau peut être endommagé ?
Eh bien, le principe même de cette intervention, c'est d'endommager le cerveau. Mais on est dans le même état qu'après une soirée bien arrosée. Rien de méchant.
Alors c'est trouvé, Sophia.
Oui, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Oui, l'éclat éternel de l'esprit immaculé, film de 2004. Et oui, Joël tombe de haut quand il découvre que sa compagne Clémentine a effacé de sa mémoire leur relation tumultueuse. Désespéré, il prend contact avec l'inventeur du procédé pour subir le même traitement. Mais tandis que ses souvenirs s'évanouissent, Joël se rend soudain compte qu'il aime toujours Clémentine. 650 000 entrées en France. Et puis l'Oscar du meilleur scénario original. Deuxième extrait.
Expliquez-vous, monsieur Tapper.
Il était grave déjanté, ce mec. Il a défoncé le mur avec sa voiture. Elle faisait à moitié tank. Je sais pas, il y avait même du feu qui sortait de ce truc.
Un mec débarque déguisé en insecte et toi tu chies dans ton front?
Croyez-moi. Une grande personne qui porte un masque, c'est un peu plus flippant qu'un Gus en costume.
Il te plaît pas, mon costume?
Alors, ça a été trouvé, il y avait plein d'indices.
Oui, c'était l'adaptation du comic The Green Hornet qui a fait découvrir aux États-Unis Bruce Lee, entre autres.
Film de 2011, le directeur du journal Daily Sentinel se transforme la nuit en super-héros, connu sous le nom de Frelon Vert. Il est secondé par Cato, l'expert en arts martiaux. 731 000 entrées en France. Troisième extrait pour ce blind test consacré à la filmographie de Gondry.
Elle te branche, Martine?
Martine, du boulot?
Non, Martine Scorsese.
Oui. Je ne me suis pas posé la question.
Imagine. Elle vient dans la chambre noire et elle taille une petite pipe en douceur. T'arranges le coup quand tu veux.
Tout ce qui compte pour toi, c'est de baiser. Peu importe qui.
Tu sais, je ne suis pas un créatif comme toi. Je n'éprouve pas le besoin de laisser une trace derrière moi.
Ah, à part un pet de temps en temps. Oh, pardon. Ça m'a échappé.
Alors, petit dialogue décalé, c'est trouvé.
C'est La science des rêves. Hein.
Oui, film de 2006, on entend Gaël Garcia Bernal avec son accent, hein, et puis Alain Chabat, mais il y a aussi Charlotte Gainsbourg dans ce film. Venu travailler à Paris dans une entreprise fabricante des calendriers, Stéphane Mirou mène une vie monotone qu'il compense par ses rêves, et bien vite, il fait connaissance de sa voisine Stéphanie qui prend goût à son excentricité. Et dans ce film, on voit toute une ville fabriquée à partir de rouleaux de papier toilette. Voilà, j'ai eu la chance de voir cette ville en vrai, et ça fait écho d'ailleurs au petit découpage qu'on voit dans son dernier film d'animation. Allez, encore un extrait de ce blind test consacré à Gondry.
Tu vas reprendre le montage, mais en commençant par la fin. Donc, tu démarres ici, et tu remontes pour terminer ensuite le montage par la scène 1.
Mais personne monte comme ça. Moi, j'ai besoin de connaître la scène d'avant pour monter la scène d'après.
Mais non, parce que chaque scène est un flashback. Et la scène d'avant, un flashback du flashback. Et la scène encore d'avant, un flashback du flashback.
C'est une excuse pour pas regarder le montage.
Alors, pas du tout. Quand on monte, on visionne toujours depuis le début. Donc le début, on le voit 1 million de fois. Alors que la fin, que à la fin. Je t'en supplie. Crois-moi, essaye. Je t'aimerai toute ma vie.
C'est complètement pourri comme récompense.
Trouvé.
Et c'est le livre des solutions.
Oui, film de 2023 où on voit clairement hein, que ce réalisateur est vraiment du côté de Méliès hein, plutôt que du côté des frères Lumière. Le livre des solutions dresse le portrait d'un réalisateur raté et bipolaire qui entraîne son équipe en campagne chez sa tante pour terminer son film. Alors il se lance alors dans l'écriture du livre des solutions. C'est un guide de conseils pratiques qui pourrait être la solution à tous ses problèmes. C'est parfois hilarant, très inventif et avec des acteurs merveilleux. Allez, dernier extrait.
Elles sont pas rangées dans l'ordre alphabétique, vos cassettes.
Je suis au courant. On a changé d'ordre. Excuse-moi, tu bosses ici?
Je crois pas. Hein.
Tu connais pas le nouvel ordre? West Coast Vidéo, super vendeur, l'anti-alphabétique total. Mademoiselle, je sais tout sur le rangement des cassettes.
C'est bon, là.
Je jure, il est grand temps pour moi de faire l'éducation de tes clients. Tu ranges tout en ordre alphabétique chez toi, hein? Toutes les provisions dans ton frigo?
Non mais écoute, genre,
abricots, bananes,
parce
carottes.
Que, si c'est, non, entre nous, il y aurait rien à dire.
Dégénéré.
Parce que c'est tout à fait son droit.
Je viens d'en prendre conscience.
C'est tout à fait son droit.
Je crois qu'elle est super organisée. Elle est du style. Je déteste les gens comme ça.
Vous êtes terriblement grossier.
M'agresse pas, toi.
Vous êtes
bon,
grossier.
Okay, avec bien, tu as fini de me gueuler dans les oreilles.
Excusez, madame. Attends, je suis désolé.
Est-ce que j'ai mis tes fourchettes dans le tiroir à tes cuillères?
Rentre chez toi.
Laisse pas la télé.
Laissez-nous en paix. Vous êtes complètement
coué. À côté de tes chaussettes.
Allez, encore un pas de côté aux États-Unis.
Et c'est Soyez sympa, rembobiné avec Jack Black.
Oui, un homme dont le cerveau devient magnétique efface involontairement toutes les cassettes du vidéoclub dans lequel l'un de ses amis travaille. Et pour satisfaire la demande de la plus fidèle cliente du vidéoclub, les deux hommes décident de réaliser les remakes des films effacés, parmi lesquels Les Sauveurs Fantômes, Le Roi Lion et Robocop, un film qui avait beaucoup marqué. Ainsi s'achève ce blind test consacré à Michel Gondry. Un drone silencieux observe une jeune femme qui se sent de plus en plus menacée.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Je viens de recevoir le virement d'un client, mais directement sur mon téléphone. Comment c'est possible de faire ça?
C'est pas possible. Les données sont sécurisées.
Ça va te paraître bizarre, mais j'ai toujours l'impression qu'on me regarde. C'est moi qui te regarde.
Alors faire un film, comme son titre l'indique, avec un drone comme thème central, bon, c'est aujourd'hui un peu ringard. Surtout qu'il y a eu plein de films d'horreur qui portent ce titre-là, drone. Mais le CV du réalisateur, hein, Simon Bouisson, mérite l'attention. Hein. Diplômé de la FEMIS, ses projets tournent autour du numérique et des nouveaux médias, notamment avec deux fictions interactives en mode court et moyen. Il s'est aussi investi sur des séries dont il a réalisé l'intégralité des épisodes, notamment 3615 Monique. Alors son premier long, donc, drone, part d'un point de vue... un point de départ intéressant. Hein. Émilie débarque à Paris pour étudier l'architecture. Afin de payer ses études, elle travaille comme camgirl la nuit. Un soir, un drone lui rend visite, se postant juste devant la baie vitrée de son studio et l'observe. Les jours suivants, dès qu'Émilie est seule, il apparaît et la suit. Inquiète, elle se demande qui se cache derrière la mystérieuse machine.
Fais attention, s'il te plaît. Tu vois, elle a l'air quand même assez fragile.
Il doit faire environ 50 cm d'envergure.
J'ai jamais vu une machine comme ça, moi.
L'angle choisi par les scénaristes s'avère pertinent, le drone devenant une véritable menace, soulevant de multiples interrogations. La première qualité de ce thriller techno hein, est d'avoir su caractériser le personnage central, crédible et émouvant, moteur idéal d'un récit captivant. Émilie est une jeune femme mystérieuse qui n'est pas sans zone d'ombre, interprétée par une actrice réellement exceptionnelle, alors danseuse de profession, révélée par le film de Clapiche encore, hein, Marion Barbeau. L'ambition de Simon Bouisson ne s'arrête pas à ce portrait réussi d'une jeune femme talentueuse et secrète, elle se situe aussi du côté d'une forme visuelle élégante et référencée, bel écrin en accord avec un scénario bifurquant vers le thriller traditionnel dès lors qu'un meurtre lance l'enjeu. Drone devient alors un jeu fascinant du chat et de la souris, hein, de l'observateur et de l'observé, qui n'est pas sans rappeler Alfred Hitchcock, mais surtout Brian De Palma. L'érotisme discret mais sensuel des scènes saphiques n'est pas sans évoquer le cinéma de l'auteur de Carrie, d'autant qu'il place le spectateur dans une situation de voyeur pas forcément confortable. Mais une question nous taraude tout de même, et ce dès l'apparition du fameux drone. Comment tout cela va-t-il se terminer? On pourrait objecter que cela concerne tous les films, hein, mais là, c'est un peu différent. On ne cesse d'y penser avec cette petite idée derrière la tête d'une déception avancée, d'une résolution qui ne sera pas à la hauteur de nombreuses pistes énoncées.
Je suis votre allié, pas votre ennemi.
Si ça vole, c'est qu'il y a quelqu'un qui pilote.
Si t'entends pas un drone, c'est qu'il est dans ta tête.
Faut que ça s'arrête.
Explique-moi.
Je ne veux pas,
en fait, c'est ça.
Pourquoi tu m'en fous tout le temps?
Alors s'il évite le choix le plus douteux, hein, celui du coupable annoncé dès son apparition à l'écran, il se termine de façon logique et frustrante, bottant partiellement en touche, réussissant finalement sa réflexion politique et sociale, mais ratant un peu son climax. Alors bien que trop long, hein, le film durera plus de 2 heures, c'est peut-être pas forcément utile, Drone s'avère quand même une bonne surprise dans un registre où le cinéma français excelle rarement, grâce à une mise en scène élégante et à une direction d'acteur quasi parfaite jusque dans ses seconds rôles, dont un formidable Cédric Kahn, d'habitude réalisateur, là, tout en duplicité.
Drone est en salle depuis le 2 octobre. Deux adolescents marginaux voient leur émission de télé favorite être annulée subitement. La frontière entre réalité et fiction s'estompe. Nous parlons de ISO de TV Glow. C'est de la VOD.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Owen est un garçon mal dans sa peau. Alors, il se découvre un intérêt pour The Pink Opaque, une série qui raconte les aventures de deux amis au pouvoir surnaturel qui les utilisent pour combattre les forces du mal, reliées par un tatouage fantôme sur la nuque. Il va ainsi se rapprocher d'une autre adolescente asociale, Maddie, et leur amour du programme va devenir une véritable obsession au fil des ans. Plusieurs événements vont s'en suivre, mettant en cause la perception de la réalité pour Owen et allant questionner jusqu'à sa propre identité. Alors cette nouvelle production A24 va contenter les non-amateurs du studio qui a su imposer cette marque, tout comme ceux qui la défendent car elle cristallise eh bien, tout ce qu'on peut aimer et détester chez A24, mais aussi dans un certain cinéma dit de genre tel qu'il est désormais pratiqué depuis un peu plus de 10 ans et l'arrivée de ce qu'on surnomme l'elevated horror de manière aussi pompeuse que fausse dans les faits. I Saw the TV Glow a un déroulé faussement nébuleux hein, pour qui suit l'intrigue qui aime éterniser artificiellement les choses. Le constat hein, que l'on peut faire à la fin est le même que Shakespeare, hein, nettement plus inspiré, lorsqu'il écrivit le texte de sa pièce, hein, tout en puissance évocatrice, beaucoup de bruit pour rien. Pourtant, hein, I Saw the TV Glow a un fond assez intéressant, pouvant parler hein, à plusieurs générations. Si le rythme lacunaire est beaucoup trop étiré pour sa bonne santé, en laisseront ben, pas mal derrière le carreau, il prend de facto le temps hein, de dévoiler au fur et à mesure ce qui arrive aux personnages principaux, mais surtout ce que cela veut dire derrière. Et le derrière est franchement plus pertinent que la manière dont cela a été mis en scène, même si on doute que le budget réduit a aussi été bien sûr facteur de décision drastique. Donc derrière cette histoire sans véritable péripétie, il y a une réflexion sur l'identité, hein, ce qui nous définit et ce qui nous compose. Nature, culture, mais aussi ce que l'on voudrait être au-delà de ce que la nature nous a donné comme enveloppe corporelle pour exister. Owen est donc le parfait représentant d'une époque coincée entre fragilité et affirmation, névrose et recherche virulente de réponses, et jusqu'à la recherche de transformation totale. Alors, voilà pour le lien avec la génération actuelle. Pour celle d'avant, celle biberonnée aux séries de la trilogie du samedi soir, des POG et des dérapages de Jacques Chirac, il y a la volonté d'étudier l'engouement, parfois jusqu'à l'obsession, que certaines séries purent avoir à la fin des années 90 par leur réussite d'écriture, de divertissement maîtrisé et de réflexion introspective bien plus sérieuse. À travers son obsession pour cette série télé, les deux héros sont en fait à la recherche d'eux-mêmes et projettent tous leurs désirs dans ces personnages et univers fantasmagoriques. C'est en fait exactement la mécanique qui rend toutes ces séries si essentielles pour les adolescents, un public qui, à cet âge, cherche à se construire avec des référents, se trouver des héros, mais aussi trouver des réponses face à un monde dont ils appréhendent de plus en plus l'affrontement et d'en rencontrer ses limites pas toujours reluisantes.
I told myself I made the right choice.
La fiction permet d'utiliser sans tabou toutes les métaphores et l'identification fonctionne à fond. Et c'est pour ça hein, qu'une série comme Buffy contre les vampires aura eu un si grand impact à la fin des années 90. En plus d'être ce qui est loin d'être rien, à l'origine de plusieurs petites révolutions, dont le traitement très sérieux d'un personnage homosexuel, des épisodes concept comme un épisode muet ou encore un épisode musical, soit des choses depuis rendues banales par les nombreuses productions qui ont suivi, bah Buffy a été un véritable phare pour toutes les jeunes filles voulant voir hein, une jeune femme forte. Josh Whedon l'a souvent expliqué en interview, son but était de renverser complètement tous les clichés, à commencer par celui de la blonde mignonne et cervelée qui se faisait croquer en début de film par un monstre. Ici, la blonde est mignonne et cela ne veut pas dire qu'elle est obligatoirement bête ni victime. Mais Buffy a été aussi un phare pour les garçons dont je fais partie, car ce traitement de multiples sujets abordés via le prisme de la fiction a été capital à cet âge de construction, au-delà même du simple sexe du personnage principal. Et le fait qu'il ait des monstres, ce qui manque cruellement à I Saw the TV Glow, rajoute bien sûr de bons points.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Elle lui arrive quoi, elle?
Au revoir.
Pardon?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir, de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine. Toi, Manu, un film.
C'est un film québécois sur la Terre comme au ciel.
Et puis toi, un autre film attendu.
Oui, le dernier Joker avec Madame Gaga et Monsieur Phoenix.
Et moi, je vous parlerai de The Apprentice, merveilleux film autour de Donald Trump. À la semaine prochaine.